Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En France, un tiers des adultes envisagerait de changer d'orientation professionnelle, plus de 40% même chez les moins de 30 ans, selon un sondage 2004 de l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes. Envie de changement, malaise dans son poste actuel, sentiment de frustration, tendance à trouver son épanouissement en dehors du travail, autant de symptômes qui sont souvent les signes avant-coureurs de ce désir de changement. Peut-on passer à côté de sa vie professionnelle? Comment sortir de l'impasse? Pourquoi n'ose-t-on pas faire face à ses talents et donc à les faire fructifier? Début de réponse ce matin. Voilà, donc pour cette émission, mieux se connaître pour mieux faire fructifier ses talents, je reçois ce matin, je vais y arriver, Sébastien Dex. Vous êtes thérapeute et responsable du cabinet ACP Intégrative, si je ne me trompe pas, pardon.
Oui, tout à fait.
Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Jeanlin Tout le Monde, vous êtes responsable de l'association ACT à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Delbès, vous êtes coach, responsable du cabinet de coaching Agentes, bonjour.
Bonjour.
Et Stéphanie Doué, vous êtes ancienne actiste, puisque c'est le terme utilisé, c'est-à-dire vous êtes passée par l'association ACT et vous êtes aujourd'hui co-gérante de l'organisme de formation Excellentia Formation.
Bonjour.
Alors, au début de cette émission, je voulais avec vous faire un peu d'introspection. Et je vais commencer avec vous, Sébastien Dex. C'est vrai que ce sondage est quand même parlant. Alors on se dit que c'est vrai que ça arrive à tout à chacun, hein, par moment, d'avoir envie de changer, de se poser des questions. Néanmoins, un tiers, ça fait à la fois pas beaucoup, parce que faut le rappeler, ça fait quand même plus de 60% des Français qui sont heureux dans leur travail. Voilà, et ça, comme on dit, pas assez de bonnes informations positives, nous les journalistes ce matin, je le souligne, plus de 60%, et c'est assez structurel, néanmoins ça fait quand même 30% qui veulent changer. Alors, pourquoi c'est la crise de la quarantaine, voire même la crise de la trentaine, est-ce que c'est normal pour commencer, en fait, de se poser souvent cette question, d'avoir envie de faire autre chose?
Je crois que c'est plutôt
Sébastien Dex.
Bon signe. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, l'être humain, il est parcouru par des forces de changement. Et je crois qu'il a une force de vie qui le pousse quelque part à vouloir améliorer sa situation, qu'elle soit matérielle, professionnelle, existentielle. Et donc, ce désir certainement de changement professionnel reflète aussi ce courant de vie qui existe en chacun de nous.
Alors, vous êtes thérapeute, donc d'une certaine manière, c'est un peu particulier, hein, comme on disait, c'est pas en l'occurrence une maladie ou une pathologie que d'avoir envie de changer de travail. Néanmoins, qu'est-ce que vous diriez, en fait, je sais pas, quelle est la ligne, c'est-à-dire, vous, en préparant l'émission, vous insistiez sur le fait de se poser la question du sens, c'est-à-dire que quand il y a une question, par exemple, trop prégnante de sens, ou qu'il y a un vrai malheur dans le travail, est-ce que vous, même thérapeute, parfois vous sortez de votre rôle en disant « changez de boulot, mon garçon ».
Je me permets pas trop de donner des conseils de ce type, mais oui, je crois que la notion de sens est vraiment primordiale. L'absence de sens au travail, notamment, crée aussi de la souffrance au travail, ou un sentiment d'insatisfaction, en tout cas, parce que l'être humain est caractérisé notamment par ce besoin de donner du sens à ce qu'il vit. Et l'un des blocages ou l'une des sources de non-épanouissement de la personne, c'est justement d'être confronté à des situations qui ne lui apportent plus de sens. Alors, notamment, ce qui est important, c'est par exemple la contradiction aux valeurs de la personne.
C'est-à-dire
que si vous avez certaines valeurs à titre personnel et que votre activité professionnelle va venir trop s'opposer ou voire vous obliger quelque part à renier vos valeurs, c'est vraiment une source de décalage. On va parler de désaccord interne.
Est-ce que vous avez un exemple? C'est-à-dire que ça peut être cause de grande souffrance et vous,
oui.
Et dans ces cas-là, vous vous obligez même quasiment à consulter
Alors, ça serait vraiment, je pense, très opportun que la personne consulte un thérapeute ou un accompagnant au sens large. Mais j'ai en tête une personne, un homme d'une cinquantaine d'années, qui a toujours eu une fibre, on va dire, écologiste, sans parler de politique, mais un respect de la nature, et qui a dû aller travailler dans une entreprise de production de produits chimiques qui étaient révélés vraiment assez polluants, et c'est un conflit de valeurs qui l'a mis vraiment en grande difficulté, et il a développé tout un tas de dysfonctionnements après dans sa vie qui masquaient quelque part ce conflit, mais qui ne lui ont pas permis, parce qu'il n'a pas fait la démarche, d'aller vraiment se confronter à ça et de trouver peut-être des solutions créatives pour sortir de ce conflit.
Alors, c'est vrai que ça peut faire bizarre de commencer cette émission autour, quelque part, un peu du bonheur au travail. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, j'avais construit l'émission en posant la question à un thérapeute. Mais le travail, ça peut être à la fois un lieu de bonheur, enfin, d'épanouissement, en tout cas, de sens, mais aussi parfois un lieu de grande souffrance. Alors, j'imagine que vous, qui êtes coach à Actes, qui accompagnez des personnes qui sont au chômage, ou vous, c'est Frédéric Delbès, ça vous arrive de faire face à ça. Qu'est-ce qui fait un moment qu'on se questionne, est-ce que tout à chacun se pose un jour cette question de savoir quels sont ses talents, ou est-ce que c'est souvent ou parfois à la faveur de crise en fait qu'on se pose cette question?
Alors, tout le monde. Oui, dans notre cas, nous nous intéressons principalement, pour ne pas dire exclusivement, aux personnes qui sont au chômage. Donc cette question, ils sont obligés de se la poser. Mais malheureusement, il a fallu attendre cette période de difficulté pour revenir à ces questions essentielles. Je reviens sur cette dimension, donner du sens. Il y a une tension, il y a une difficulté quand effectivement on n'arrive pas à trouver du sens dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Et donner du sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire quelque chose qui correspond à qui je suis vraiment. Et c'est d'où cette dimension essentielle de bien se connaître. Pour répondre à la question « qu'est-ce qui est important pour moi ?», il faut savoir qui on est. Et c'est cette adéquation entre qui on est, ce que l'on va faire, ce que l'on va vivre, qui va faire l'équilibre personnel, professionnel, et dans notre cas, qui va permettre aux personnes de traverser cette période de chômage, reprendre confiance, être capable de développer un projet professionnel qu'ils vont pouvoir exprimer avec confiance et conviction.
Frédéric Delbès, est-ce qu'il faut des crises pour se poser des bonnes questions ?
Je ne sais pas s'il faut des crises pour se poser des bonnes questions, mais la crise permet de se poser de bonnes questions. Et c'est vrai que les personnes que je rencontre en coaching sont des salariés qui sont en poste. Il y a aussi des personnes au chômage, mais c'est surtout des salariés en poste qui sont autour de 40 ans. Donc on peut parler aussi d'une remise en cause, de questionnement. J'irai pas jusqu'à la notion de crise, mais en tout cas de questionnement sur le sens de ma vie. Et je trouve que le titre est bien trouvé, mieux se connaître pour mieux faire fructifier ses talents. Les personnes qui viennent me voir en coaching souhaitent faire fructifier leurs talents. Ils n'ont peut-être pas conscience, en commençant un accompagnement, que cela va passer par une connaissance de soi. C'est ce qu'on leur explique.
Alors Sébastien Dext, en préparant cette émission, on avait essayé de voir ensemble quelles peuvent être les raisons d'un blocage. C'est-à-dire parfois aussi, on est malheureux au travail, mais j'ai envie de dire, il faut s'en prendre qu'à soi-même. On est malheureux parce qu'on bloque. Alors qu'est-ce que le thérapeute que vous êtes dit? Quelles sont les grandes sources de blocage ou qui fait qu'on se pose pas les bonnes questions?
Spontanément, je dirais que c'est vraiment le besoin qu'on va rassembler autour du terme de besoin d'amour, besoin de reconnaissance, besoin de validation, parce que notre activité professionnelle représente quand même une grande part de notre vie, que l'on soit en activité ou sans activité. C'est-à-dire psychiquement, mentalement, socialement, le travail reste quelque part la norme.
Et mais vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'en fait on attend trop de son travail dans ces cas-là?
C'est-à-dire que si je place mal, oui tout à fait, une relation par exemple avec mon hiérarchique ou avec des collègues, si je la place vraiment à un niveau affectif, je vais dire, où j'attends que mon collègue ou mon supérieur vienne satisfaire mon besoin de reconnaissance et que ça se passe mal, ou que le collègue ou le directeur ou le supérieur ne se place pas sur cette même ligne de relation, je vais en souffrir. Et ça va me créer une grosse insatisfaction et après peut-être créer du conflit, du ressentiment, de la guéguerre, entre guillemets, sur mon lieu de travail. Ça, par exemple, c'est ça. Aussi, ça renvoie aussi à la notion d'évaluation. Le but, je crois, du jeu et des parcours de reconstruction du sens et de la connaissance de soi, c'est apprendre à fonctionner de plus en plus en auto-évaluation. C'est-à-dire s'évaluer soi-même à partir de mes propres critères et pas attendre Et malheureusement, on est assez construit et socialisé sous cette manière-là, c'est qu'on attend toujours l'évaluation externe. C'est-à-dire que le patron ou le collègue, le chef d'équipe, le leader, dise « ce que tu as fait, c'est bien ». Mais si moi-même, je ne me suis pas, j'allais dire, évalué d'abord et de manière autonome, on va dire, grâce peut-être un concept qui est important, moi qui me tient à cœur, c'est l'estime de soi. Si je développe pas suffisamment une estime de moi-même, ni forte ni basse, mais juste, je vais être dépendant d'une certaine manière de l'évaluation externe. Et donc mon humeur, mon bien-être psychique, psychologique, va dépendre, entre guillemets, de la carotte ou du bâton de mon entourage professionnel.
Alors vous citiez deux autres blocages en préparant cette émission. Vous m'aviez dit les décalages internes et dysfonctionnement relationnel. Alors dysfonctionnement relationnel, on l'a un peu compris avec ce besoin. D'amour, peut-être que vous pouvez expliquer ce que vous entendiez derrière, ce que vous distinguez du besoin d'amour et les décalages internes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait,
décalage interne, c'est-à-dire que je suis perpétuellement en tant que personne parcouru par des, on va dire des expériences, des réalités, des motions, on pourrait prendre sur le plan spirituel, et ces motions viennent ensuite être chargées, nourries de l'affectif, de l'émotionnel.
Qu'est-ce que vous appelez l'émotion ?
L'émotion, c'est les mouvements intérieurs, les D'accord. ressentis corporels, on pourrait D'accord. dire aussi. Et ensuite, est-ce que j'ai la capacité ou pas, on va dire, de les symboliser de manière adéquate ? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir, à partir de mon ressenti corporel et de mon ressenti émotionnel, mettre des mots qui correspondent de manière juste ? C'est-à-dire de créer finalement un accord interne. Et la plupart du temps, parce que je dois correspondre à telle image, que j'attends l'amour de quelqu'un, que je veux être apprécié dans un contexte, je ne vais pas laisser ma réalité intérieure affleurer à ma conscience, ma symbolisation, et donc je vais me créer petit à petit des décalages internes. Et petit à petit, ces décalages internes font que je vais fonctionner 30 ou 40% de moi-même.
Vous voulez dire je suis pas moi-même ou je me connais mal?
Exactement.
Et je passe mon temps à jouer
Tout à fait.
À être dans des jeux de rôle, c'est ça?
Des jeux de rôle, et on parle de faux self, de faux moi, et plus je suis en décalage avec mon vrai moi, moins je fonctionne bien. Je fonctionne sur une roue au lieu de quatre.
Alors, sans trahir le secret professionnel, est-ce que vous auriez des exemples à nous citer?
Oui, par exemple.
On pourrait parler à tout à chacun.
Oui, par exemple, je pense à un jeune homme que j'ai connu il y a quelques années qui sortait d'un harcèlement professionnel. Mais il s'est rendu compte par son travail sur lui-même que quelque part, il avait nourri cet harcèlement professionnel en voulant coller à tout prix à l'image du parfait manager, du parfait salarié de son entreprise. Et son supérieur, qui était un petit peu manipulateur, finalement a utilisé ce besoin que ce jeune homme avait de correspondre à l'autre pour le manipuler, pour lui faire faire un tas de choses, et jusqu'à aller jusqu'au reniement de soi, jusqu'au burn-out, peut-être qu'on en parlera, qui est vraiment la souffrance au travail. Et il lui a fallu déconstruire tout son système de valeurs pour réintroduire, réintégrer ses propres valeurs à lui pour développer maintenant son activité. Il est chef d'entreprise et tout marche bien.
Donc ça, c'est les décalages internes, dysfonctionnement relationnel, ce serait quoi dans ces cas-là?
Alors là, c'est plutôt ce qu'on appelle les troubles de la relation, c'est-à-dire...
Mais ce qui concerne justement des gens qui ont une pathologie ou qui...
Non, parce qu'on est malheureusement, on est un peu tous dans ce genre de fonctionnement, c'est-à-dire que des fois, on attend trop d'une relation, ou on projette sur l'autre des choses qui ne lui appartiennent pas, ou on imagine que l'autre me voit d'une certaine manière, et... Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de vérifier nos perceptions. Et on prend nos perceptions pour la réalité, pour la vérité. Et ça crée souvent des incompréhensions, du dysfonctionnement, oui, relationnel, vraiment dans la relation.
Alors, tout ça est un résumé, hein, c'est un digest, il faut aller vous voir et consulter, hein, pour connaître la suite. Mais est-ce que Frédéric Delbès ou Jean-Lin Tout le Monde, sur la partie des blocages, vous envoyez d'autres, en fait, des choses qui font qu'on peut passer sa vie à côté de ses pompes professionnelles ou se créer des problèmes, en fait, tout seul?
Oui, Frédéric Delbès. Oui, les blocages sont très nombreux, et c'est d'ailleurs tout le travail d'un accompagnement. C'est-à-dire que une fois qu'on a découvert, ou que la personne a découvert son blocage, j'allais dire qu'en termes d'accompagnement coaching, hein, je ne parle pas d'une thérapie, le coaching est pratiquement terminé. Parce qu'après, il a trouvé la clé. et on va plus passer après à de la formation ou à des outils, mais le travail est fait.
Mais est-ce que vous, au vu de ce que vous avez entendu, est-ce que pour vous, il y en a, enfin, j'imagine qu'il y en a peut-être plein d'autres, hein, mais il y en a quelques-uns qui vous sont venus comme ça?
C'est, besoin de reconnaissance en entreprise, c'est très très important. Et ce manque de reconnaissance va revenir très souvent. Le besoin de trouver du sens, effectivement, et que ça corresponde à son éthique et à sa valeur, aussi revient souvent en accompagnement. Besoin d'amour un peu moins en entreprise, bien que ça peut être dans la reconnaissance, mais ça va pas être exprimé comme ça.
Jean et tout le monde.
Oui, moi je voudrais regarder l'autre côté de la médaille, si vous voulez, le revers de la médaille, parce que tout ce qui a été dit est absolument vrai, mais la connaissance de soi, ça permet aussi le bien-être personnel et le bien-être au travail. Ce qui est frappant quand nous rencontrons des personnes qui viennent de perdre leur emploi, c'est très souvent que à situation identique, des personnes vont réagir très différemment. Pourquoi réagissent-elles différemment? Parce que les personnes sont différentes. Et donc c'est sur le travail personnel que l'on va pouvoir comprendre pourquoi cet événement a été particulièrement difficile pour moi. Donc la connaissance de soi, c'est aussi un chemin vers le bien-être. Ça n'est pas que quand on a une difficulté qu'on va avoir un coach ou qu'on va avoir un psy.
Eh ben merci, vous m'avez fait l'introduction pour la deuxième partie. On va quand même faire une pause musicale entre les deux.
Chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Écoute bien ton être, lui connaît le chemin. Il faut bien se connaître pour choisir son destin. Tout ce que tu dois faire, c'est ce que tu sais faire. Mais garde le cachet, ce dont tu as rêvé. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Le monde est difficile, il voudra te broyer, faire de toi la victime de ta naïveté. Mais ne perds pas confiance, garde ton espérance, et tu récolteras ce que tu as semé. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Tout ce qui est facile, laisse-le de côté. Regarde bien les signes que le ciel a semés. Garde bien tes racines pour aller au sommet. Mais ne sois pas tranquille, on n'arrive jamais. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Mais un jour sur ta route, tu seras fatigué. Écrasé par le doute, tu voudras tout laisser. C'est alors qu'une étoile se mettra à briller. Elle ôtera son voile, ton heure est arrivée. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, une émission Mieux se connaître pour mieux faire fructifier ses talents. Avec Sébastien Dex, vous êtes thérapeute responsable du cabinet ACP Intégrative. Jean-Lin Tout-le-Monde, vous êtes responsable de l'association ACT de Toulouse. Frédéric Delbès, coach, responsable du cabinet de coaching Agentes, et Stéphanie Douet, ancienne actiste, donc c'est-à-dire qui est passée par l'association Actes de Toulouse, et co-gérante aujourd'hui d'un organisme de formation Excellencia Formation. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, je voulais avec vous essayer d'aborder une question avant de voir comment on s'y prend pour essayer de faire au mieux, enfin pas qu'une, deux. La première question était, est-ce que il faut à tout prix chercher à être heureux au travail? Est-ce que c'est pas une illusion? La vie n'est pas facile, c'est un mystère pour personne. Chercher à avoir le job idéal où on s'éclate, on va tous les matins le sourire jusqu'aux oreilles, comme dans les magazines, est-ce que c'est une recherche juste, Frédéric Delbès?
C'est une recherche humaine, en tout cas. Je ne sais pas si j'emploierais le terme de heureux au travail. Je crois que il est important d'être dans un travail où on va se réaliser dans la joie. Tiens, voilà, j'emploierais plus le mot de joie que de bonheur, parce que sinon on va rentrer dans une définition du bonheur. Dans la joie, dans le travail plaisir, dans le travail simple, où on peut partager, où on peut parler d'amour avec ses collaborateurs, amour du métier, amour de son environnement. C'est un mot qu'on utilise très peu en entreprise, le mot amour. Et pourtant, il va contribuer à ce travail plaisir, où on va retrouver ce que vous appelez le bonheur.
Autre chose, autre question, en introduction de cette deuxième partie, c'était évidemment, il y a aussi beaucoup de gens qui sont enfin au chômage, c'est plus de 10% de la population française, la population active, et aujourd'hui on dit souvent que, enfin j'ai entendu dire, que pour être bien préparé à la vie professionnelle, en fait il faut se préparer aussi à traverser des périodes de chômage, donc c'est la vie professionnelle est aujourd'hui fait d'ombre et de lumière, c'est un mystère pour personne, elle est difficile, voire violente à cause du contexte économique, ça aussi, que dire, on peut avoir l'impression parfois quand on travaille que chacun est un petit soldat un peu dans son coin et il faut absolument qu'il ait tous les outils en main, qu'il se connaisse le mieux possible, qu'il ait un réseau pour arriver à survivre au milieu de la jungle. Alors est-ce que c'est un peu exagéré peut-être, hein, j'en ai tout le monde, mais il y a une espèce d'hyper-individualisation, je sais pas comment le dire autrement, aussi de la vie professionnelle.
Oui, c'est incontestable. Le monde professionnel restera, qu'on le veuille ou non, un monde difficile et dur. C'est un monde de l'efficacité, c'est un monde de la productivité. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut éviter. Ça devient un monde plus complexe, parce que plus interconnecté, parce que les décisions sont faites beaucoup plus rapidement, l'information circule à toute vitesse. Donc les exigences sur les personnes sont de plus en plus importante. Ça n'empêche pas
que... Le rythme aussi, non ?
Le rythme,
absolument. On en parle souvent. Enfin.
Le rythme, c'est vrai. Ça n'empêche pas qu'on peut effectivement éprouver du plaisir, de la joie. Moi, je peux dire j'étais heureux dans mon travail. Ça ne veut pas dire que c'était drôle tous les jours, que je n'ai pas eu des décisions difficiles à prendre, que je ne me suis pas pris des coups. Mais je peux dire que j'ai été heureux dans mon travail. Et je vais vous donner une petite illustration de ça. Quand nous travaillons avec les personnes qui ont déjà défini leur projet professionnel et qui vont avec lesquelles on prépare les entretiens d'embauche. Et un des messages principaux qu'on leur donne, c'est parler de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez faire. Parce que c'est ça qui intéresse la personne qui est en face de vous. Et quand on dit j'aime faire quelque chose, j'aime m'occuper de technologie, j'aime faire circuler l'information, pour moi les valeurs de l'écologie sont importantes, dites-le, parce que c'est vous et parce que c'est quelque chose qui va interpeller votre interlocuteur. Et c'est quand on fait ça, quand on a la possibilité de faire ça, qu'on va effectivement éprouver du plaisir au travail.
Alors, malgré tout, donc vous à ACT, peut-être vous pouvez présenter brièvement oui. ACT, et vous me disiez en général, les gens, un sur deux, quand ils arrivent dans mon bureau, ils sont en pleurs, évidemment, oui. Parce qu'ils sont au chômage la plupart du temps.
Donc mais oui, exactement. Donc nous sommes une activité bénévole qui existe depuis une vingtaine d'années à Paris et 5 ans à Toulouse, dont la fonction principale est de proposer des bilans de compétences approfondis aux personnes, en particulier cadres et jeunes diplômés qui sont en chômage ou en repositionnement. Et la particularité d'ACT, c'est que nous partons avant tout de la personne, d'où l'importance de la connaissance de soi. On ne va pas rencontrer une personne parce qu'elle est informaticienne, comptable ou ingénieur, on va rencontrer une personne parce que c'est une personne, et on va essayer de l'aider à mieux se définir, à mieux se comprendre, et parce qu'elle se comprend mieux, elle va être en mesure de dire « voilà une situation que j'ai vécue de façon difficile et je comprends pourquoi ». Et voilà pourquoi j'ai vécu aussi des périodes heureuses, des périodes dans lesquelles je me sentais à l'aise dans mon environnement. Donc ma contribution était reconnue, et c'est sur ce positif qu'on va essayer de les aider à rebâtir leur projet.
Alors vous êtes assez exigeant dans le côté introspection, puisque si je ne me trompe pas, ACT, vous demandez en fait de ne pas chercher du travail pendant tout le temps du bilan, ce qui ne doit pas être facile, parce que parfois on doit être un peu
stressé. Alors on ne va pas leur interdire de trouver du travail s'ils en trouvent.
En tout cas, vous les incitez à avoir une phase vraiment réflexive et d'introspection. Alors vous ne jouez pas au psy, c'est que donc vous l'avez dit tout au long du début de cette émission, c'est vraiment important. Alors comment vous y prenez dans ces cas-là? C'est quoi la méthode ACT pour ce travail de connaissance de soi?
Alors pour résumer très, très rapidement, à la fin de la première partie où on va leur demander de ce travail d'introspection, on va leur demander d'écrire un autoportrait. Et comme le dit très joliment une de nos bénévoles, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez à condition que ce soit vrai. Et cet autoportrait, ça n'est pas le portrait de quelqu'un que j'aurais voulu être, c'est pas le portrait de quelqu'un que je pense mon employeur futur voudrait voir, mais c'est le portrait de la personne que je suis, avec mes contradictions, les choses que j'aime, les choses que j'aime moins. Mais, je dois dire, c'est un exercice difficile. Et donc, on va leur donner des outils, de graphologie, de MBTI, enfin tous les outils techniques qui peuvent exister, de façon à pouvoir nourrir cette réflexion. Cette réflexion, elle va être nourrie par des outils, mais elle n'est valable qu'à partir du moment où la personne met d'elle-même. Donc plus elle va mettre d'elle-même, plus ce travail va être pertinent.
En tout cas, le fond de l'intuition, si je comprends bien, c'est de se dire que chacun a en lui-même en fait les ressources, les qualités, les talents. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, chacun a ce qu'il faut pour trouver sa place dans le monde du travail, et les talents nécessaires?
Mais absolument.
Frédéric Delbès, sur la question du talent, est-ce que on a tous un talent en fait quelque part et
bien
il
sûr.
Est tous différent, donc on a tous une place à trouver, c'est
bien
ça?
Bien sûr, on a tous un talent.
Et vous, quelle est votre méthode pour les aider, enfin aider vos personnes?
Ben moi, je rejoins ce que dit Jeanlin Tout le Monde, et effectivement, alors j'appelle pas ça ce portrait, mais c'est très joli, je trouve ça bien. Mais cette connaissance de soi, elle va passer par deux aspects. Premièrement, extérioriser ses sentiments, ses émotions. Deuxièmement, c'est faire sortir sa réalité, son histoire, ses forces et ses fragilités, pour découvrir notre vérité, ce que nous sommes, ce que vous appelez le portrait. Et effectivement, trouver du sens, donner du sens à son histoire, force et fragilité, on peut s'appuyer sur des outils comme le MBTI, l'analyse transactionnelle.
Alors les outils, citons-les. Évidemment, vous n'allez pas nous faire passer le test en direct à tous, à moi et aux auditeurs, mais pouvez-nous les citer, peut-être parce que pour certains, ça peut être un peu du chinois. C'est quoi ces tests? Alors le plus connu, et le MBTI, qu'est-ce que c'est?
Déjà, avant de citer ces outils, je vais dire un mot sur la notion de test. Parce qu'effectivement, tout le monde parle de test, or ce ne sont pas des tests. Ce sont des outils ou des questionnaires d'auto-évaluation de personnalité ou comportementale. Pourquoi ne pas employer ce terme de test? Parce que dans la notion de test, il y a une notion de juste ou faux. Là, ça ne peut pas être juste ou faux puisqu'on parle de l'être humain. Voilà, je ferme la parenthèse. Les outils...
C'est important de le préciser quand même.
Oui, c'est important.
Ça peut être assez anxiogène. On peut toujours avoir l'impression
Exactement.
Qu'on est obligé d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est.
Tout à fait.
Pour trouver sa place.
Ou alors qu'on va nous obliger à nous mettre dans des cases. Non, ce ne sont pas des cases. C'est vraiment un outil pour nous aider à mieux comprendre, qui va conforter ou qui va nous permettre de nous poser des questions sur l'image, le portrait que nous avons dessiné de nous-mêmes. Donc c'est l'inverse du test avec des cases vrai-faux, et puis ça va dépendre aussi de la personne, comment elle va utiliser cet outil, comment elle va l'exploiter. Concernant le nombre d'outils, c'est vrai que le MBTI est un des outils les plus utilisés au monde, qui vient de la théorie de Carl Jung, la théorie de la personnalité, mais on peut retrouver des tests...
Juste Carl Jung, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pouvez dire...
Carl Jung, qui est un psychiatre... Contemporain de Freud.
Oui, élève de Freud.
Élève de Freud. On peut retrouver aussi des questionnaires comme le PAPI, qu'utilisent beaucoup les entreprises, ou Performance. Bon voilà, après il en existe d'autres, Insight, etc. Et puis aussi des outils comme l'analyse transactionnelle ou la PNL.
Qu'est-ce qui permet de découvrir ces tests? Par exemple, prenons le MBTI, c'est-à-dire pour montrer l'intérêt de ces tests à ceux qui en douteraient, c'est-à-dire quelles sont les dominantes que ça dessine. Si j'ai compris, c'est vous êtes plutôt introverti, extraverti,
voilà.
Alors, réfléchi ou spontané.
En fait, alors vous venez de redire test, mais tout le monde le redit. Voilà. questionnaire d'auto-évaluation. D'ailleurs, c'est un
formulaire. C'est encore pire votre truc. Questionnaire,
formulaire, non. Formulaire, ça reprend la notion de test où c'est voilà, je coche voilà questionnaire. Le MBTI va reprendre les quatre dimensions. Il va donner en avance notre façon de puiser notre énergie. Comment on se ressource? Est-ce que je vais me ressourcer en allant vers les autres? Ça sera plutôt l'extraversion. Ou en étant plutôt au calme chez moi, ça sera plutôt l'introversion. La deuxième dimension du MBTI, ça va être comment je recueille les informations autour de moi. La troisième dimension, c'est le processus du traitement de l'information. Comment je traite cette information? Et enfin, la quatrième dimension, c'est comment j'aborde le monde extérieur.
Comment je la traite, cette information? C'est-à-dire, du coup, quelle différence il peut y avoir entre les uns et les autres?
Je peux traiter une information en rationalisant toutes les données et en intellectualisant. Ça sera le T, MBTI, puisqu'il y a des initiales, le thinking. Tout est centré dans la tête. Ou alors, je vais traiter l'information à partir du cœur, à partir du feeling. C'est le F dans le MBTI. À partir des sentiments et des valeurs.
Et mon rapport au monde, peut-être les deux grandes tendances, ça serait quoi?
Alors, le rapport au monde et comment j'aborde le monde extérieur, les initiales, ça va être le J, pour jugement en anglais. Alors, c'est pas le jugement comme on l'entend, mais c'est le jugement, comment je vais... aborder le travail, est-ce que je vais être très organisé, est-ce que je vais planifier mes tâches, ou alors ça sera plutôt le P, l'initiale du P, qui va être l'adaptabilité, la capacité à pouvoir improviser dans mon travail.
Jean-Luc, tout le monde, vous voulez peut-être citer d'autres tests, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut voir à travers ne serait-ce que cet exemple du MBTI, c'est que voilà, c'est pas forcément dans une culture où peut-être il faut être assez extraverti, proactif, assez organisé. Voilà, tout le monde n'a pas ses dominantes, et les personnes qui n'ont pas ses dominantes ont probablement aussi chacun leur richesse.
Oui, absolument, mais c'est là où il faut effectivement dépasser cette notion de jugement. Il est mieux aujourd'hui d'être extraverti qu'introverti. Non, je suis introverti ou je suis extraverti, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vais réussir effectivement à me relier au monde extérieur. Et on peut très bien réussir en étant introverti. Simplement, on va avoir d'autres talents, d'autres efficacités, peut-être d'autres stratégies d'intervention avec les autres. Mais à partir du moment où on le sait, on peut gérer ça très bien. Il n'y a aucune difficulté.
Alors, ma dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause, c'était qui peut nous aider dans le chemin? Alors évidemment, on imagine que c'est vous, hein, mais en gros, à quoi sert un coach? Parce que c'est vrai que voilà, les coachs, je sais pas, ça a quoi, 10, 15 ans. Moi, je me souviens très bien, à titre personnel, quand j'ai vu arriver les coachs, je me suis dit, oh là là, bientôt, il faudra à chacun qu'on ait un psy, un coach. Enfin, il faut être un super-héros dans la vie professionnelle. Alors, peut-être expliquer à quoi sert un coach, pour ceux qui sauraient pas, ou qui auraient quelques a priori, et puis de voir qui peut vous aider, qui peut aider dans ce travail, on va dire, d'éclosion. Moi, je m'étais noté aussi l'environnement personnel, voire même parfois, ça peut être le patron. Le patron peut avoir tout intérêt à faire en sorte que chacun soit bien à sa place.
Mais oui, les entreprises qui réussissent sont des entreprises dans lesquelles les relations sont bonnes, mais pas juste les relations industrielles, les relations syndicales, les relations personnelles. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans son environnement professionnel va être quelqu'un de performant. Donc, un responsable d'organisation, responsable d'association, responsable d'une entreprise, se doit d'être performant lui-même en étant, nous, ce que nous appelons bienveillant vis-à-vis des employés qui travaillent avec
lui. C'est souvent le secret des entreprises qui réussissent, vous diriez?
En tout cas, je peux vous dire, c'était le mien.
C'était le vôtre, d'accord. Frédéric Delbès.
Oui, je rejoins ce que vous dites. Effectivement, les managers coach font du bon travail. À ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir un accompagnement et un coaching. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites dans le sens où il faut être accompagné absolument par un coach. Non, ce n'est pas vrai. Ça dépend de chacun. Et je crois que quand on veut faire un travail de connaissance de soi pour faire fructifier ses talents, c'est plus simple de le faire à deux. Parce qu'on est dans une relation de construction, de co-construction. Nous ne sommes pas en position haute. On accompagne la personne, on l'aide à réfléchir. Nous sommes des facilitateurs, nous sommes des guides. On va permettre à la personne de prendre du recul, mais c'est bien la personne qui va trouver les solutions. Les solutions sont en elle. Nous sommes, on parle de maïeutique, nous sommes des accoucheurs, mais certainement pas des sachants.
Est-ce qu'on peut faire ce travail tout seul? C'est-à-dire, en même temps, il faut être certifié, comme vous disiez, hein, enfin, comme on dit dans le jargon, pour faire passer tous ces tests. Vous-même, vous êtes ce qu'on appelle supervisé quand on est
tout
coach. Est-ce que, en se baladant sur Internet, en passant des tests comme on en trouve et en posant quelques questions à son entourage, on peut essayer d'arriver à se connaître et de s'en sortir à peu près? Ou est-ce que c'est un peu, ça devient, entre guillemets, un passage obligé, parce que c'est un plus de faire tous ces...
Je pense que déjà de faire une démarche personnelle, d'aller sur Internet, de regarder ces questionnaires, c'est déjà un premier travail intéressant, parce que ça montre que la personne a envie de faire ce travail de connaissance de soi. Donc c'est bien. Et il y a des supports intéressants sur Internet, il y a des conférences intéressantes sur Internet qui peuvent permettre à la personne de s'ouvrir. Je pense notamment à des conférences TEDx, qui sont sur des formats de 10-12 minutes, qui sont passionnantes et qui peuvent permettre à des personnes qui ont envie de mieux se connaître d'avoir des informations sur un large domaine. Ceci étant dit, je crois très sincèrement que c'est très 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 difficile, voire impossible, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, de faire un travail de connaissance de soi tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a des zones que l'on ne voit pas, que l'on ne veut pas voir, et que tout seul, on avance plus difficilement, voire on n'avance pas.
Sébastien Dex, peut-être avant qu'on fasse cette pause promise, on dit parfois que dans la vie de couple ou dans la vie amoureuse, à un moment on stagne si on ne fait pas un minimum un travail sur soi. Alors est-ce que c'est la même chose pour la vie professionnelle? Qu'est-ce que vous diriez de ça?
Oui, je crois que le travail sur soi, comme l'être humain est sans cesse en actualisation, c'est-à-dire devient de plus en plus réel, devient de plus en plus lui-même, ce mouvement va à un moment donné générer des questions. Alors je serais peut-être un peu plus, peut-être optimiste, je sais pas, mais Maslow par exemple, un humaniste, dit qu'il y a une grande partie des humains qui sont auto-actualisants par exemple, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de faire un travail sur eux ou d'être accompagnés pour s'actualiser, et qu'ils savent profiter de leur environnement matériel et relationnel pour déjà faire leur propre chemin. Donc ça, je trouve que c'est déjà intéressant. Ensuite, juste un petit rappel, le travail, ça vient d'un mot latin qui vient de tripalium. Et tripalium, c'était un instrument de torture. Et donc ça peut paraître paradoxal quand même de relier bonheur, joie, paix, amour et je sais pas quoi avec ce travail. Alors je le dis un peu de manière paradoxale. Et ensuite, je crois que vraiment...
Ça fera le thème d'une autre émission.
Hein, d'accord.
Merci de votre remarque.
Voilà. Et ensuite, je pense que vraiment, un des risques, et j'en fais partie, de ces facteurs de risque, c'est l'hyper-individualisation, comme vous avez dit tout à l'heure. Moi, je crois qu'il ne faut vraiment pas oublier aussi que le travail, c'est un lieu où il y a de l'historique et de la dimension collective. Et que un des dangers des management humanistes, participatifs, créatifs, c'est justement de faire trop reposer les choses au niveau individuel. Et que la dimension collective, quelquefois, elle est un peu squeezée. Et je crois que c'est un peu dangereux.
Alors, on fait une deuxième pause. Et puis après, vous avez été très discret, Stéphanie Douai. Mais on va vous donner la parole pour votre témoignage.
T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois. vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air entre New York et Singapour. Tu voyages toujours en première. T'as ta résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Tu peux pas supporter la misère. T'es pas heureux, mais t'en as l'air. T'as perdu le sens de l'humour depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi et t'en es fier au fond. Tu n'as qu'un seul regret. Tu fais pas ce que t'aurais voulu faire. T'aurais voulu être un artiste.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission ce matin, donc mieux se connaître pour mieux faire fructifier ses talents, qui part évidemment du principe que tout le monde a des talents, qu'ils sont différents, le tout est d'arriver à les découvrir et à trouver, à les faire vivre. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que nous sommes avec Sébastien Dex, qui est thérapeute, Jeanlin Tout-le-Monde, responsable de l'association Actes de Toulouse, Frédéric Delbès, coach, responsable du cabinet de coaching à Gentes, et Stéphanie Douet, ancienne actiste, alors c'est à vous, aujourd'hui co-gérante de l'organisme de formation Excellencia Formation. Stéphanie Douet, fort de tout ce qui a été dit, alors évidemment, hein, comme toujours dans cette émission, vous dites ce que vous voulez dire ou ce que vous pouvez dire. Peut-être vous pouvez décrire dans quelle situation vous étiez en fait avant d'arriver à l'association ACT. Qu'est-ce qui fait que vous avez toqué la porte de ACT? Et puis, est-ce que, à votre avis, vous aviez un certain nombre de blocages intérieurs qui faisaient que vous étiez dans une situation difficile?
J'avais 10 ans d'expérience en tant que responsable dans un organisme de formation et du jour au lendemain j'ai perdu mon emploi, donc période de crise quand même.
Vous aviez quel âge?
J'avais 49 ans.
Voilà, ce qui pour une femme en plus c'est pas forcément toujours un âge très facile.
Je sais pas si c'est pas un âge très facile, moi je me sentais...
Professionnellement
oui, voilà, on vous renvoie que c'est compliqué. Mais intérieurement, moi, je me disais, j'ai quand même des capacités. Donc, pendant quelques mois, j'ai erré un petit peu toute seule, je vais dire. Et j'ai entendu parler de l'association ACT. J'ai surtout entendu parler de leur méthode, leur façon d'accompagner les gens dans une démarche de bilan de compétences. La première chose qui m'a interpellée quand j'ai regardé le site, c'était le terme de sincère et de bienveillance. Et donc je suis allée à ACT. Et donc je me suis inscrite et j'ai fait mon bilan de compétences.
Alors, il faut le préciser à quel point c'est important dans ce type de situation aussi, la bienveillance, parce que souvent on a une très mauvaise image de soi,
on a une très mauvaise image
panique un
soi,
peu, on peut être angoissé.
On se retrouve face à une situation qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas demandée. On se pose la question de pourquoi on en est là, on culpabilise, on se remet en question. Et donc voilà, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Il faut que je travaille, il faut que j'avance. Et on ne peut pas avancer tout seul, comme me disait le monsieur tout à l'heure. On ne peut pas avancer tout seul. On est face à soi-même et on n'a pas les réponses, on n'a pas le chemin pour se poser les bonnes questions ou poser les choses à leur place, donner du sens. Et donc, je suis allée à ACT, qui m'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance et j'ai entamé une démarche de bilan de compétences. Voilà.
Est-ce que cette démarche de bilan de compétences, qu'est-ce que vous avez découvert au long de cette démarche? Et puis peut-être, pour revenir sur la première partie, est-ce que vous avez découvert, en fait, vous aviez des espèces de... Enfin, qu'il y avait une partie de la difficulté dans laquelle vous étiez ou des difficultés que vous rencontriez dans votre vie professionnelle qui vous appartenaient? Est-ce que vous avez des lumières personnelles et est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-unes?
Ce que j'ai... Au départ, ce que je voulais, c'était... mettre le doigt sur mes faiblesses et mes points forts. Je voulais regarder ça de façon sereine, je dirais. Et donc, ACT grâce à cette démarche, j'ai pu le faire. Ces questionnaires d'évaluation que j'ai faits n'ont pas, révélé des choses extraordinaires. Non, ça m'a permis d'expliquer mon parcours et d'être sûr que ce que je suis et ce que je fais correspond. C'est-à-dire que dans mon expérience professionnelle, j'ai commencé en tant que formatrice, après j'ai été coordonnatrice et ensuite j'ai été responsable de centre et responsable régional. Et la démarche m'a permis de comprendre pourquoi j'ai évolué comme ça. Et dans les différentes personnalités du MBTI, voilà, ça, les choses se remettaient à leur place. Voilà.
Jean-Lin, tout le monde, est-ce que vous en avez qui font des découvertes, c'est-à-dire qui arrivent, qui ont l'impression de tout d'un coup se regarder dans la glace pour la première fois, on va dire c'est...
Probablement, c'est difficile pour moi de le dire, mais probablement. Mais ce qui est important dans ce que disait Stéphanie, c'est de comprendre le passé pour préparer l'avenir.
Exactement.
C'est cette démarche qu'elle a faite au départ. Comprendre le passé, donc se comprendre soi-même et se servir de ça pour expliquer son parcours professionnel, y compris les réussites,
oui,
pas seulement les difficultés, y compris les réussites. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir préparer l'avenir. Alors il y a des gens qui sont plus ou moins motivés pour ça, il y a des gens qui sont plus ou moins doués à faire ce genre de travail, d'où l'importance d'accompagner avec un programme structuré d'accompagnement avec des questionnaires, des rendez-vous réguliers, très réguliers et très fréquents, qui aident cette démarche.
Sébastien Dex.
Oui, je voudrais bien rajouter un petit mot sur un processus qu'on appelle de stigmatisation. Parce que vraiment, c'est ce que je ressens quand je vous écoute,
oui,
Stéphanie.
Oui.
C'est que on peut dire que la personne qui perd son emploi vit vraiment une dégradation importante de son image d'elle-même. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus, encore là, renvoyer tout à la biographie ou à la dynamique interne. Cette mauvaise image de soi, elle vient aussi beaucoup de ce processus de stigmatisation qui dit que ce que vous êtes, vous portez en vous-même, quelque part, des handicaps, des tares, des déficiences, des lacunes. Et on voit bien que l'image que j'ai de moi-même se construit énormément par le regard de l'autre. Et là, les accompagnants qui prônent et qui vivent la bienveillance sont vraiment dans ce qui est quelque part d'une...
Une déculpabilisation.
Oui, une déculpabilisation. Mmh. Et moi, je pense même une réparation, quelque part, on pourrait dire.
C'est sûr que quand on est au chômage, c'est pas facile à chaque fois qu'on va dîner chez les gens de dire, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis au chômage.
Voilà, vous avez l'impression tout de suite
et donc, sentir un peu le gaz, comme disent les jeunes. C'est...
Oui, on se pose la question de sa place.
Alors, l'après, qu'est-ce que vous avez découvert au sein, rapidement, parce qu'on touche à la fin de cette émission, mm-hmm. qu'est-ce que vous avez découvert ? Vous êtes donc, il n'y a pas eu de révolution, mais ça vous a aidé à rechoisir, en fait, mais oui. peut-être mieux ou autrement.
Plus sûrement, en tout cas.
Votre
métier. J'ai pas découvert. Je me suis expliqué pourquoi mon parcours et j'ai mis sur mon parcours et ce que je voulais faire après, le mot leader. Leader qui, pour moi, était un mot pas très... Enfin, pas négatif, mais bon, leader, ça veut dire je fonce et j'écrase les autres. Mais non, c'était leader dans le sens où ce que j'aimais et ce que j'ai fait pendant ces 10 années et que je veux continuer à faire, c'est d'entraîner les autres. D'entraîner les autres vers un projet commun. Et ça, je l'ai découvert, je me le suis expliqué en faisant cette démarche avec
Et donc, vous y êtes autorisé d'une certaine manière aussi.
Et voilà,
après.
Je me suis autorisé à entendre que j'étais leader et que je savais faire ça. C'était mon talent.
Et donc vous êtes passé de responsable régional à co-gérant d'un organisme.
Voilà, je me suis associé donc dans un organisme de formation. Et donc ce que je voulais à la suite de ça, qui m'a paru évident, c'était que je voulais faire mon métier, la même chose, mais de façon un petit peu différente, plus en tant que leader, responsable, créatrice, et ainsi de suite. Voilà.
Frédéric Delbès, je vous vois bouger, non ? Vous vouliez réagir ? Non ? Je me suis trompé ?
Non. Parce que j'écoute avec attention et que je trouve ça très intéressant.
Voilà, alors peut-être à la fin, il y aurait peut-être une dernière question, je ne sais pas qui pourrait répondre, c'est évidemment, on est sur une radio chrétienne, quand on est chrétien, on peut aussi croire dans la foi que tout à chacun n'est pas venu sur Terre inutilement, y compris qu'il ne passe pas ses journées simplement à subir cette torture qu'est le travail, pourra simplement arriver à survivre au milieu de la jungle que serait la vie, et arriver à nourrir ses petits comme les louves ou les loups nourrissent leurs petits. Frédéric Delbès peut-être, Sébastien Dex, enfin, je ne sais pas qui veut réagir à cette question, il reste une minute. Sébastien Dex, peut-être pour finir, évidemment, on peut aussi porter un regard de foi
sur
toutes ces questions qu'on vient d'évoquer.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment important d'avoir cette dimension spirituelle. Spirituelle, c'est ce qui donne du sens, justement. Et je sais que, par exemple, auprès des jeunes, adolescents ou jeunes adultes qui se lancent dans la fonction professionnelle, moi, je les fais travailler sur ce qu'on appelle le rêve ontologique. C'est-à-dire vraiment la manière que j'ai de me projeter dans l'avenir, mais dans quelque chose qui est vraiment de mon essence, on pourrait dire. Et là, je crois que moi, ça rejoint vraiment la foi et le sens, entre guillemets, de ma présence sur Terre.
Frédéric Delbès, très court, si vous voulez qu'on fasse une annonce à la fin.
Très court, j'aime bien reprendre une phrase de Saint Paul, mais à l'envers. Et je dis, si chaque personne dans son travail recherche la maîtrise de soi, la douceur, la fidélité, la bonté, la bienveillance, la patience, la paix, la joie, l'amour, les résultats ne tarderont pas à apparaître.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu donc nous parler de tout cela. Je rappelle quelques informations pratiques. Donc l'association ACT, tout simplement, vous allez sur internet, c'est ACT-ASSO, ACT-ASSO. Et Frédéric Delbès, qui donc avec Agentes organise une formation les 18 et 19 mars prochains à l'abbaye Sainte-Marie du Désert sur le thème « Deux jours pour discerner et décider pour agir ». C'est pareil, vous tapez ça sur internet Agentes et vous trouverez toutes les informations. Et Sébastien Dex, ton responsable donc du cabinet ACP Intégrative. Voilà messieurs. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.